Bonjour, nous allons essayer de voir l'histoire d'Israël en prenant du recul, à travers les promesses de Dieu. Nous commençons donc avec sa naissance, et la première question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi Israël? Pourquoi Dieu se choisit un peuple et pourquoi il choisit Israël? À l'origine de ce choix, nous avons un appel accompagné d'une promesse de Dieu. Nous lisons dans Genèse au chapitre 12, verset 1. Le Seigneur dit à Abraham, Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà la parole de Dieu qui donne naissance au peuple d'Israël. Dieu fait cette promesse à Abraham, mais il est intéressant de noter que juste avant l'appel de Dieu, on lit dans Genèse au chapitre 11 au verset 31, Théra emmena son fils Abraham et son petit-fils Lot, fils de Haran. Il emmena aussi sa belle-fille Sarai, femme d'Abraham. Il quitta avec eux Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils voyagèrent jusqu'à Charan et s'y installèrent. Après avoir vécu 205 ans, Théra mourut à Charan. Théra, le père d'Abraham, voulait aller au pays de Canaan. On peut se demander pourquoi. Est-ce que Dieu l'avait appelé lui avant Abraham? Mais du coup, on se rend compte que Théra n'est pas allé au bout de sa mission. Pourquoi? Certains pensent qu'il fuyait un royaume idolâtre. D'ailleurs, dans Josué au chapitre 24, verset 2, Josué dit à tout le peuple, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Théra, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient autrefois de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris Abraham, votre père, de l'autre côté du fleuve et je lui ai fait parcourir tout Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. On voit que Théra était idolâtre quand il partit de chez lui. On peut supposer qu'il partait pour une vie meilleure, mais pas forcément qu'il avait eu un appel de Dieu. Du coup, arrivé à Charan, peut-être a-t-il trouvé des conditions de vie meilleures et il a décidé de s'y installer. Par contre, Dieu appelle Abraham pour qu'il mène jusqu'au bout le projet de son père d'aller en Canaan. Quand il se révèle à Abraham, Dieu lui dit bien de quitter le pays, mais pas seulement. Il insiste en disant le lieu de tes origines est la maison de ton père, comme s'il insistait pour montrer qu'il doit quitter la mentalité de son père. Donc l'appel d'Abraham et du coup la naissance d'Israël, c'est une mise à part, une consécration à un Dieu unique, au seul Dieu. Dieu se choisit un peuple qui doit être à part de tous les autres. Il se détache de tous les autres peuples qui étaient polythéistes pour s'attacher au Dieu unique. Pour cela, il doit aller sur une terre à part. Dans cette promesse, on remarque la promesse de devenir un peuple qui est liée à celle d'aller dans le pays. C'est ainsi qu'un peuple devient une nation. Et pendant des siècles, Israël est resté une promesse. Aucun des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, n'a vu de son vivant l'accomplissement de la promesse. On peut comparer cela à la période de la grossesse pour une femme qui attend un enfant. L'enfant n'est pas encore né, mais on sait qu'il va arriver. On commence à voir des signes qu'il arrive. La période que l'on dit des patriarches, c'est la grossesse de la nation promise. La promesse sera renouvelée plusieurs fois. Je vous invite d'ailleurs à compter combien de fois Dieu répète sa promesse. Cela nous montre combien Dieu veut nous rassurer quand il nous fait une promesse. Il la confirme plusieurs fois pour nous encourager. Et pendant cette période, les patriarches se lèguent cette promesse de père en fils comme un héritage. Et cette promesse sera à l'origine des histoires racontées sur la vie des patriarches. La rivalité entre Ismaël et Isaac. Abraham sait qu'il doit devenir une grande nation, donc il doit avoir un fils, mais il n'attend pas que Dieu agisse. Il essaye d'aider Dieu en concevant un fils avec la servante de sa femme, puisque Sarai était stérile. C'était la coutume de l'époque. Cette décision va être à l'origine de nombreux problèmes pour Israël dans la suite des temps. Le sacrifice d'Isaac, cet épisode nous montre la totale confiance qu'avait Abraham dans la promesse que Dieu lui avait faite. Et enfin, la rivalité entre Ésaü et Jacob. L'aîné est normalement celui qui hérite de la promesse, mais Ésaü ayant méprisé le droit d'aînesse, celui-ci perd cet héritage et c'est Jacob finalement qui héritera de la promesse et de la bénédiction de son père. D'ailleurs, un épisode important a lieu dans la vie de Jacob quand celui-ci revient dans le pays de Canaan. On sait que Jacob a quitté le pays de Canaan pour fuir son frère qui voulait le tuer et qu'il s'est installé dans la famille d'Abraham qui était resté à Charan. Au bout de quelques années passées à Charan, Dieu appelle Jacob. Dans Genèse chapitre 31 verset 3, c'est alors que l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes ancêtres, auprès de ta famille, je serai avec toi. Je vous invite à comparer cette promesse avec la première promesse de Dieu à Abraham. Toutes les deux sont faites au même endroit à Charan en Mésopotamie. Jacob rentre donc au pays de Canaan, et une nuit, un homme vient le combattre. Ils se battent toute la nuit, et pour laisser l'autre partir, Jacob exige que celui-ci le bénisse. Genèse 32, verset 25. Jacob resta donc seul, alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse, et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Il répondit « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il reprit « On ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda « Je t'en prie, dis-moi ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce nom, ce lieu du nom de Péniel, face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Nous voyons ici que Jacob se bat en fait contre Dieu ou un ange de Dieu, et c'est à ce moment-là que Dieu donne un nouveau nom à Jacob, Israël, celui qui lutte avec Dieu. Et on nous précise que Jacob a été vainqueur. Incroyable qu'un homme soit vainqueur de Dieu ou même d'un ange. Comment interpréter cela? Je vous invite à réfléchir à cela justement, et on pourra en parler davantage pendant le partage à la fin du mois. C'est un moment important car c'est à partir de Jacob que l'on compte tous ses descendants comme faisant partie du peuple d'Israël. Tous les descendants d'Abraham, par exemple, ne font pas forcément partie d'Israël. Tous les descendants d'Isaac ne font pas forcément partie d'Israël. Mais tous les descendants de Jacob font partie du peuple d'Israël. Les 12 fils que Jacob va avoir seront à l'origine des 12 tribus d'Israël. On accélère un peu dans l'histoire. Jacob et toute sa famille vont descendre en Égypte à cause d'une famine, et pendant environ 400 ans, ils resteront là-bas et seront opprimés et réduits en esclavage. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi ne sont-ils pas retournés avant au pays de Canaan? Ici aussi, je vous invite à répondre à ces questions personnellement, et on pourra y revenir lors du partage. Pour reprendre notre comparaison avec la grossesse de la femme, la sortie d'Égypte, c'est la naissance du peuple d'Israël, précédée des douleurs de l'enfantement. C'est le premier épisode historique de ce peuple, le plus grandiose et le plus miraculeux, et c'est celui dont le souvenir doit se transmettre de génération en génération. À l'origine de cet épisode, nous avons encore un appel de Dieu, et cette fois, c'est à Moïse qu'il s'adresse. Exode au chapitre 3, verset 7, l'Éternel dit « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Dans cette promesse, Dieu dit à Moïse de faire sortir le peuple d'Égypte pour le mener dans le pays promis. Mais là, Dieu précise bien « Je suis descendu pour le délivrer et le faire monter dans un pays. » Et dans la suite, nous allons voir une série de miracles et d'événements plus extraordinaires les uns que les autres. On voit bien que Dieu est descendu pour délivrer son peuple. On a eu les plaies d'Égypte. Ensuite, il y a la sortie et comment Dieu a guidé Israël dans le désert et comment Dieu a donné sa loi au mont Sinaï. Nous arrivons enfin à Josué qui prend la suite de Moïse à la fin des 40 années d'errance dans le désert. Le peuple arrive aux portes du pays promis et dans Josué au chapitre 1, verset 1, on lit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, et tout ce peuple avec toi, en direction du pays que je donne aux Israélites. » Voilà, là on a la réalisation de la promesse. Dieu fait le rappel. Je vous invite à lire les versets qui suivent jusqu'au verset 9. Et avec Josué, Dieu insiste beaucoup sur le fait d'être courageux, car il a la lourde tâche de succéder à l'un des plus grands hommes de Dieu de l'histoire, Moïse, et en plus c'est lui qui doit mener le combat pour accomplir la promesse de Dieu. Comme pour Moïse, Dieu lui promet d'être avec lui. Le peuple d'Israël réalise enfin la promesse de Dieu à Abraham. C'est ce que Josué rappelle aux Israélites à la fin de sa vie quand ils ont conquis le pays. Je vous invite à lire Josué au chapitre 24, la fin du livre de Josué, après qu'Israël ait conquis tout le territoire promis. Donc la promesse est réalisée, enfin une partie de la promesse. Israël est une nation, mais elle doit encore devenir une grande nation, et il y a aussi la promesse que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Je vous invite à réfléchir à comment s'est accomplie cette partie de la promesse. Et nous entrons dans la période enfance-adolescence d'Israël avec la période des juges, où la Bible nous répète souvent « chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Et un schéma historique se répète pendant cette période, Israël qui se détourne de Dieu et tombe dans l'idolâtrie, Israël est donc soumis à ses ennemis, Israël se repent, crie à Dieu, fait appel à Dieu, et Dieu envoie un juge pour délivrer Israël de ses ennemis. C'est pendant la période des juges que nous avons les histoires de Samson, de Gédéon et de Ruth, par exemple. C'est durant cette période qu'Israël apprend à vivre en tant que nation et a donc la tentation de copier les nations alentour et tombe dans l'idolâtrie avant de revenir à Dieu sous l'impulsion d'un juge suscité par Dieu. Et à la fin de cette période, Samuel est appelé par Dieu en tant que prophète et juge. C'est à ce moment-là de l'histoire qu'Israël va devenir un royaume. Quand Israël s'installe en Canaan, le pays est partagé entre les 12 tribus d'Israël, mais aucun roi ne règne sur eux. Pendant la période des juges, Dieu envoie des personnes pour les libérer de leurs ennemis, mais ce ne sont pas des personnes qui règnent et qui décident de tout en Israël. Il y a une fois, par exemple, avec Gédéon, où le peuple d'Israël a voulu avoir un roi. Quand Gédéon accomplit ses exploits avec l'aide de Dieu, certains Israélites veulent le faire roi. Ils refusent en disant « C'est l'Éternel votre roi ». Ce qui est intéressant, pourtant, c'est que parmi ses 70 fils, il en nomme un Abimélec, ce qui veut dire « mon père est roi ». On voit quand même que grande était la tentation de devenir roi pour Gédéon. D'ailleurs, si Gédéon a refusé, son fils Abimélec, lui, a voulu devenir roi. Il se fait d'ailleurs proclamer roi de la ville de Sichem et tue presque tous ses frères. Mais ce petit règne sur une seule ville ne dure que 3 ans jusqu'à ce qu'il soit tué au cours d'une bataille. Cet épisode nous montre qu'Israël veut devenir un royaume comme les peuples alentours. Pendant cette période des juges, le niveau moral et religieux d'Israël diminue, le peuple s'éloigne de Dieu, et même des juges comme Samson ont un profil double. Un côté vaillant pour l'Éternel, mais un côté tombant dans la tentation de la chair. À l'issue de cette période, on peut craindre que le peuple d'Israël ne se confonde au peuple qu'il avait laissé subsister au milieu de lui, au lieu de reprendre le pays promis totalement, comme Dieu le lui avait demandé. C'est à ce moment que Dieu suscite le ministère de Samuel. On connaît bien l'histoire de son enfance auprès du souverain sacrificateur Élie. C'est sous son ministère que Dieu va instaurer la royauté en Israël. Samuel incite le peuple à se repentir et à se consacrer à l'Éternel seul. Vous pouvez lire dans 1 Samuel au chapitre 7, du verset 2 au verset 6, comment Samuel mène un mouvement de repentance du peuple et le consacre à l'Éternel comme l'avait fait Josué avant la période des juges. Peu après, pourtant, le peuple demande à avoir un roi qui règne sur eux pour être, comme il est dit, comme les autres nations. Samuel prévient le peuple qu'en demandant un roi, il rejette l'Éternel comme roi. Ici, on peut y voir une leçon pour nos vies également. On est chrétien, donc on doit être consacré à Dieu, c'est-à-dire séparé des autres. Mais nous avons toujours la tentation de faire ou de vouloir être comme les autres qui ne croient pas en Dieu, sans nous apercevoir que justement, notre particularité, notre différence, c'est là notre plus grande force. Le peuple d'Israël devait rester différent des autres peuples, pour garder sa force. Mais le peuple insiste, et même Dieu dit à Samuel d'écouter la volonté du peuple. Saül est donc choisi, et il plaît à tout le peuple. Il est beau, grand, fort. Il est la parfaite image d'un roi pour un peuple. Israël, ne l'oublions pas, était un peuple formé de plusieurs tribus. À plusieurs moments de son histoire, une rivalité entre tribus naissait et pouvait conduire à ce que les tribus s'entretuent. La tribu de Benjamin a failli disparaître pendant la période des juges, par exemple, décimée par les autres tribus. Peut-être Dieu s'est-il servi de cette envie de roi pour mieux unifier les tribus entre elles, afin qu'elles forment une nation davantage unie. Toujours est-il que Saül devient roi, mais s'éloignera de Dieu, et la royauté passera à David. On est environ à 1000 ans avant Jésus-Christ. David sera fidèle à l'Éternel, et Dieu lui fait la promesse que ses descendants seront rois d'Israël. On peut lire cette promesse à plusieurs endroits dans la Bible, comme dans le psaume 89, versets 36, 37, 38. Ou alors, Salomon rappelle cette promesse quand il dédicace le temple à l'Éternel à Jérusalem. On peut lire cela dans 1 Rois au chapitre 8, au verset 25. Salomon s'adresse à l'Éternel. « Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit. Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence, comme tu as marché en ma présence. » Beaucoup d'autres prophéties sur David, d'ailleurs, parlent aussi du règne du Messie, Jésus-Christ, qui sera un descendant de David. On voit dans cette promesse, donc, l'importance des généalogies au début des livres de Matthieu et Luc, qui remontent jusqu'au roi David. Après David, c'est donc son fils Salomon qui règne. Le début du règne se passera bien, mais petit à petit, Salomon se laissera tenter par ses concubines et tombera dans l'idolâtrie. Après le règne de Salomon se produit un événement important dans l'histoire d'Israël. On appelle cela le schisme, la séparation. On lit cette histoire dans 1 Rois au chapitre 11, du verset 29 au verset 39. Le peuple est divisé en deux royaumes. Les royaumes qui résulteront de cette séparation seront désignés de plusieurs façons dans la Bible. Les 10 tribus seront appelées, successivement ou à plusieurs occasions, le royaume d'Israël, les 10 tribus, Éphraïm, le royaume du Nord ou encore le royaume de Samarie. L'autre royaume, la tribu qui reste à la descendance de David, sera appelé le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem. Dans la Bible, nous trouvons toutes ces histoires dans les livres des Chroniques et des Rois principalement. 1 Chronique se concentre sur l'histoire de David, 2 Chroniques relatent la suite avec Salomon et tous les rois qui se sont succédés, mais seulement les rois de Juda. 1 Roi et 2 Rois racontent les histoires des rois d'Israël et de Juda. Le royaume d'Israël, donc le royaume du Nord, verra se succéder seulement des rois idolâtres qui entraînent le peuple loin de l'Éternel. Il y a eu plusieurs capitales en fonction des rois, la plus connue étant Samarie. Il y aura des complots et des coups d'État de sorte que ce n'est pas une seule dynastie qui régnera sur ce royaume. Jéroboam sera le premier roi après Salomon, et le plus connu ensuite, défavorablement, sera Achab avec sa femme Jézabel pendant le temps d'Élie le prophète. Ce royaume sera le premier à disparaître, il est pris par le roi d'Assyrie Sennachérib. Le royaume de Juda, lui, verra donc se succéder les rois d'une seule dynastie, la descendance de David, selon la promesse que Dieu lui avait faite. Certains rois s'éloigneront de Dieu, mais d'autres permettront au peuple de revenir à l'Éternel. Certains étaient fervents, d'autres moins. Les deux rois les plus fidèles à l'Éternel de cette lignée seront Ézéchias et Josias. Ézéchias régna sur Juda du temps où le royaume d'Israël tomba aux mains des Assyriens. Dieu va intervenir en sa faveur et permettra que Juda résiste à l'envahisseur. Josias, lui, régna vers la fin du royaume de Juda. Pendant son règne, Dieu ne permettra pas que Juda soit pris par ses ennemis. La défaite et la chute de Jérusalem et du royaume auront lieu pendant le règne de ses enfants. Pendant ce temps de royauté, les rois influençaient la vie religieuse du peuple. Quand un roi fervent régnait, le peuple revenait à l'Éternel. Par contre, un roi qui s'éloignait de Dieu éloignait tout le peuple avec lui. Pour guider et enseigner le peuple, Dieu envoyait aussi ses prophètes. Souvent, dans la Bible, le livre d'un prophète nous présente sous quel règne de quel roi cela s'est passé. Par exemple, le prophète Ésaïe a vécu du temps du roi Ézéchias, et on peut voir dans le livre d'Ésaïe certaines parties qui ne sont pas des prophéties, mais qui relatent un épisode historique de ce temps. Tous les prophètes n'ont pas vécu pendant ce temps des royaumes. D'autres ont vécu plus tard, après la fin des deux royaumes. Pendant ce temps des rois, les prophètes ont pour rôle de parler pour Dieu et d'appeler à la repentance, à un retour sincère vers Dieu. Ces hommes se succédèrent sans interruption entre le schisme et la fin de la royauté. Souvent méprisés, maltraités et persécutés, ils annonçaient les terribles châtiments qui viendraient sur le peuple rebelle à Dieu. mais aussi la promesse d'un avenir meilleur dans la personne du Messie qui rétablirait toutes choses. Le temps des rois fut donc aussi le temps des prophètes. On l'a vu, le royaume d'Israël est détruit par l'Assyrie en 722 avant Jésus-Christ. Le roi assyrien fait déporter les 10 tribus du nord en Mésopotamie et les dissémine dans tout son royaume. Il remplace cette population en Israël par des gens venus de toutes parts du royaume. Une population avec un tel mélange d'origine et de culture ne pouvait plus constituer un danger de soulèvement. Le royaume de Juda durera plus longtemps, jusque vers 600 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, Nebuchadnezzar, avec son armée babylonienne, s'empare de Jérusalem, détruit le temple et fait déporter le peuple de Juda dans son royaume. On peut se rappeler la promesse de Dieu à David, il ne manquera pas d'un descendant régnant sur Israël s'il ne s'éloigne pas de Dieu. Malheureusement, les rois de Juda, comme les rois d'Israël, s'éloignèrent de Dieu. Il faut noter que la déportation de Juda n'est pas la même que celle d'Israël. Israël a été disséminé dans toutes les provinces du royaume assyrien, alors que Juda a été déporté en groupe au même endroit dans le royaume de Babylone. Le prophète Jérémie, qui vécut à l'époque des derniers rois de Juda, avait prophétisé que cet exil durerait 70 ans. C'est ainsi que se termine le temps de la royauté d'Israël et de Juda.
Nous allons nous intéresser à la période qui va de l'exil à Babylone au temps de Jésus. La première partie est connue dans la Bible, mais la deuxième partie ne nous est pas trop connue car n'est pas mentionnée dans la Bible. Jérémie, qui a vécu lors des derniers règnes de Juda, avait prophétisé que l'exil durerait 70 ans. C'est ce qui se passa environ de 586 à 516 avant Jésus-Christ. Ézéchiel accomplit son ministère de prophète en exil. Daniel fut déporté également et fut même au service du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, et de ses successeurs. Donc, au bout des 70 ans, le peuple de Juda rentra sur ses terres. Il ne redeviendra pas un royaume, mais fut géré par un gouverneur. L'un d'entre eux, par exemple, est évoqué par le prophète Agée, c'est Zorobabel. Esdras, un homme versé dans les Écritures, guida le peuple dans l'observance de la loi. Le temple fut reconstruit. Plus tard, Néhémie reviendra aussi avec le désir de reconstruire les murailles de Jérusalem. En parallèle, on trouve dans le livre d'Esther l'histoire de Juifs qui sont restés en déportation. C'est à cette période qu'apparaît le terme « juif ». « Juif » vient du mot « Juda ». Les Juifs sont ceux qui restent de la tribu de Juda après la chute du royaume. Et en fait, techniquement et étymologiquement parlant, tous les descendants des 12 tribus ne sont pas forcément juifs. On l'a dit, les 10 tribus du Nord ont été disséminées et du coup cette partie du peuple a dû s'assimiler parmi les peuples qu'elle côtoyait. Et on a presque perdu la trace de ces tribus. Mais Dieu a quand même prophétisé qu'il rassemblerait les exilés d'Israël, pas seulement de Juda. Par contre donc, la tribu de Juda, déportée au même endroit, ne s'est pas assimilée, et a même pu revenir comme peuple, ayant gardé sa culture et ses pratiques religieuses. Après ce terrible châtiment, cet exil, le peuple qui revint fut mieux disposé envers l'Éternel. Il veut éviter de retomber dans les travers de ses pères, il garde la loi. Il y a donc deux institutions qui vont apparaître à cette époque, les docteurs de la loi et les synagogues. Deux institutions qui sont un peu la conséquence de cet exil et de la leçon apprise avec cette douloureuse expérience. Le peuple ne veut plus tomber dans l'idolâtrie qui a eu pour conséquence l'exil. Pour cela, il s'attache à la loi de Dieu. Le premier homme qui aura à cœur de ramener le cœur du peuple vers l'obéissance à Dieu et à sa loi, c'est Esdras qui revient en Israël avec des milliers de personnes. On nous dit qu'il est versé dans les Écritures. Il fera une lecture du livre de la loi lors d'une fête, ce qui amènera, par exemple, le peuple à chasser les épouses étrangères pour respecter l'ordre de Dieu. Certains hommes, donc, s'appliqueront à connaître et à enseigner la loi. On retrouve cela dans le Nouveau Testament avec les docteurs de la loi, ou les rabbins. Jésus se faisant aussi appeler rabbi. Il connaissait et enseignait la loi. On en voit un bon exemple dans le discours sur la montagne, où Jésus enseigne en partant de ce que dit la loi. Il a été dit ceci, mais moi je vous dis cela. Il a bien précisé qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour confirmer la loi, pour accomplir la loi. Il est donc venu comme le meilleur, le véritable docteur de la loi. Quand une partie du peuple revient sur ses terres, il commence à reconstruire le temple de Jérusalem. Malheureusement, les habitants non-juifs qui étaient venus s'installer dans les environs virent cela d'un mauvais œil et se plaignirent au roi des Perses. La construction sera suspendue pendant une vingtaine d'années. Et c'est là qu'interviennent les prophètes Agée et Zacharie, qui encourage le peuple à reprendre la construction du temple alors que celui-ci s'était résigné et il se construisait ses maisons. Du coup, sans attendre la permission du roi, le peuple reprend et termine la construction du temple. Il arrivera un peu la même chose pour la reconstruction des murailles des dizaines d'années plus tard. Sous l'impulsion de Néhémie et malgré les manœuvres de leurs ennemis locaux, les Juifs finiront par rebâtir les murailles de Jérusalem. Il faut noter qu'une petite partie seulement des Juifs est revenue sur ces terres. La plupart est restée en exil. On peut s'étonner de ce constat, mais il faut s'imaginer à la place de ces Juifs. Ils se sont bien installés, ont fini par avoir une bonne situation, ils sont nés sur place. Le risque était grand pour eux de retourner en Israël, dans un pays à reconstruire, où ils n'auraient pas la même situation qu'en exil, avec un voyage long et dangereux, où ils pouvaient se faire dépouiller car les routes n'étaient pas sûres. Donc, en parallèle du retour de certains Juifs et de la reconstruction du temple puis des murailles, on trouve l'histoire de Juifs restés dans le royaume de Perse. C'est par exemple le cas d'Esther. Dans ce livre, on voit que l'ennemi qui s'était attaché à faire tomber Israël dans l'idolâtrie avec, pour conséquence, l'exil, s'emploie maintenant à exterminer le peuple de Dieu quand il est disséminé dans les nations. Heureusement, Dieu veille sur son peuple et reste fidèle à ses promesses malgré l'infidélité d'Israël. La deuxième institution, donc, qui apparaît à cette époque, en plus des docteurs de la loi, c'est la synagogue. La synagogue est un lieu où les Juifs se rassemblent pour lire la loi et échanger sur la loi. La synagogue est apparue parce que les Juifs n'avaient plus le temple pour se rassembler lors des fêtes, pour faire la lecture de la loi. Ils étaient disséminés dans les nations et pour garder leur culture et leur religion, ils se rassemblent dans ces endroits. Dans le Nouveau Testament, on retrouve beaucoup Jésus et les apôtres allant enseigner dans les synagogues. Paul, dans ses voyages missionnaires, commence par prêcher l'évangile auprès des Juifs présents dans les villes où il voyage en allant dans les synagogues. Les ordres religieux juifs que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, par exemple les pharisiens et les sadducéens, sont nés pendant cette période. Malheureusement, et Jésus les reprendra beaucoup là-dessus, les Juifs eurent tellement peur de s'éloigner de la loi de Dieu qu'ils en devinrent très, même trop, religieux. Et ils ajoutèrent beaucoup de préceptes qui ne venaient pas de Dieu, mais qui avaient été ajoutés par des hommes. Pendant la période intertestamentaire, une partie des Juifs se rassemble donc en Israël et résiste tant bien que mal aux influences extérieures. Pendant la période de domination grecque, le roi Antiochus Épiphane fit sacrifier un porc dans le temple. C'est ce qui avait été prophétisé par Daniel quand il parlait de l'abomination de la désolation. Plus tard encore, les Juifs, ne voulant pas adorer d'autres dieux, en voulant rester attachés à l'Éternel, se soulevèrent sous l'impulsion d'une famille de prêtres, la famille des Maccabées. Avec notamment Judas Maccabée, ils arrivèrent à refaire d'Israël un royaume. C'est une dynastie qui durera environ 100 ans. Le roi Hérode que l'on retrouve à la naissance de Jésus, lui, était soumis aux Romains. Après la venue de Jésus et la naissance du christianisme, alors que Jésus s'inscrivait parfaitement dans les prophéties messianiques et les traditions juives, les religieux juifs ont fait évoluer certaines traditions contre le christianisme pour s'opposer à Jésus en tant que Messie. On le sait également, depuis Jésus, la bonne nouvelle n'est plus prêchée seulement à Israël, mais au monde entier. Ceci ne signifie pas que Dieu a rejeté son peuple d'Israël, car des prophéties le concernant doivent encore s'accomplir. Lors de notre partage, nous pourrons aborder ensemble, en plus des questions suscitées par les deux précédents podcasts, le peuple juif aujourd'hui, avec par exemple le retour des Juifs en Israël, qui a été un grand accomplissement de prophétie au XXe siècle, et c'est un retour qui continue. D'autres questions peut-être qui auront été soulevées par ce podcast, qui n'était juste qu'un survol de l'histoire d'Israël entre la période de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je vous dis donc à mercredi avec vos questions. Que Dieu vous bénisse.